Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va donc parler argent. Alors, pas vraiment argent, chiffre d'affaires, en rapport avec le business, plutôt argent sur l'aspect money mindset. On va précisément parler d'insécurité financière, de peur autour de l'argent. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je prends pas forcément la parole sur ces sujets-là habituellement. J'ai d'ailleurs hésité à m'y aventurer, mais j'ai vécu une expérience que j'avais envie de partager et puis j'ai aussi décidé que j'arrêtais de juger mes idées. Après tout, c'est un épisode de podcast parmi d'autres, donc let's go pour ce sujet-là aujourd'hui. Si je te dis insécurité financière, probablement que tu penses plutôt à ne pas savoir comment payer son loyer, galérer pour boucler la fin du mois ou joindre les deux bouts. Peut-être tu penses aussi à démarrer le mois avec zéro visibilité financière ou finir le mois dans le rouge, des choses comme ça. Mais on peut aussi être en insécurité financière, même lorsqu'on a un compte en banque bien rempli. Même lorsqu'on a un business qui tourne, et même, j'imagine, parce que c'est pas mon cas pour le coup là, mais même lorsqu'on est entrepreneur et qu'on gagne des millions. Je parle bien de gagner des millions, hein, pas forcément de générer des millions de chiffre d'affaires, ce qui est complètement différent. Mais figure-toi que cette insécurité financière, moi, malgré qu'effectivement je sois pas forcément dans la première situation, mais plutôt dans la deuxième, hein, avec un compte en banque, qui est pas à sec, un business qui tourne bien, du chiffre d'affaires qui est généré régulièrement. Eh bien, pour autant, j'ai compris en fait, justement avec un événement récent, que finalement, j'étais en insécurité financière et je vais donc te raconter aujourd'hui comment j'ai compris que l'argent qu'on peut avoir justement sur notre compte en banque ne règle pas, en tout cas ne réglait pas pour moi, le problème de la sécurité. Donc en fait, l'idée un petit peu avec cet épisode aussi, c'est peu importe l'argent qu'on a sur son compte, on peut avoir des challenges avec l'argent. Et donc, si tu m'écoutes et que tu es dans la première situation, c'est-à-dire peut-être que tu as du mal à joindre les deux bouts, etc., cet épisode pourrait te paraître comme un peu ne pas te concerner ou un peu avancer ou te dire bah super, c'est des problèmes de riches. En réalité, je pense que tu devrais pas considérer que cet épisode n'est pas pour toi parce que c'est un moyen aussi de voir que peut-être la quête que tu as et ce après quoi tu cours n'est pas forcément ce qui va résoudre les problèmes comme tu le crois. Et tu vois, c'est pas forcément parce que demain tu vas avoir un business qui va tourner de l'argent sur ton compte en banque, etc., que tu ne te sentiras pas en insécurité financière ou que tu n'auras pas encore de nouveaux challenges ou des challenges avec l'argent. Donc je pense que même si t'es pas dans le cas à ma place aujourd'hui, ou même si t'es pas dans la même situation financière que moi ou que d'autres entrepreneurs peut-être plus avancés qui vont peut-être se reconnaître aussi dans cet épisode, je pense que au demeurant, c'est intéressant de voir que bah, justement que l'argent ne vient pas panser entre guillemets ce problème de sécurité. Alors évidemment, c'est pas non plus un épisode de podcast sur ce qui se joue dans ta relation à l'argent, niveau débutant entre guillemets. En gros, c'est pas le livre Père riche, père pauvre ici, hein, je t'invite à le lire si tu l'as pas lu. C'est pas l'idée, c'est pas d'être dans un sujet généraliste autour de l'argent. C'est pas de dire ok, si t'arrives pas à générer de l'argent, peut-être que c'est parce que tu te l'autorises pas. Si t'arrives pas à générer de l'argent, peut-être que c'est parce que t'as un conditionnement familial qui fait que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, l'argent ceci. C'est pas du tout l'idée de cet épisode. Encore une fois, peu importe l'argent qu'on a sur notre compte. L'idée de cet épisode ici, moi, c'est de te partager un challenge que j'ai eu avec l'argent et de te partager en fait un cas concret, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'achat de mon appartement et ce que ça a fait ressortir comme finalement, un petit peu comme leçon, comme enseignement, ce qui s'est joué. Donc, c'est plutôt de te partager ça et ensuite bah, que toi, tu puisses en faire ce que tu veux dans ton quotidien en espérant que ça résonne pour toi et que ça puisse t'apporter aussi une vision peut-être sur ce sujet-là. Donc, si je reprends mon histoire, je vous en ai pas mal parlé dans mon bilan 2024 sur cette dernière année, je dirais même presque ces dernières années, on va dire, c'est un peu corrélé au moment où je suis passée en société. J'ai fait de l'hypercroissance, j'ai fait mes meilleures années en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de marge, de rentabilité, etc. Et pourtant, j'ai été pas mal challengée sur le sujet de l'argent. Finalement, c'est quand même un sujet qui est resté au centre de mes préoccupations puisque j'ai eu du mal à avoir un bon suivi de mon pilotage financier. J'ai pas toujours été bien accompagnée, j'ai été mal conseillée, voire pas conseillée du tout. Et aussi, si tu te souviens, j'ai parlé dans mon bilan 2024 du coup, de la difficulté que j'ai eue et de l'humiliation que ça a engendré à retrouver un petit peu en urgence une location en tant que entrepreneur, parce que clairement c'est mon statut d'entrepreneur qui bloquait. Alors au-delà de mon statut d'entrepreneur qui bloquait, c'est l'ancienneté que j'avais dans l'entrepreneuriat, le fait que j'avais pas trois bilans à fournir et que l'auto-entreprise plus la société, ça faisait pas l'affaire pour les organismes de loyers impayés, etc. Mais ce que moi j'ai perçu, c'est que malgré effectivement un excellent bilan, des excellents chiffres, une société du coup qui se développe, etc. Eh bien voilà, j'ai pris une claque d'ego, une claque émotionnelle en me rendant compte qu'en fait je pouvais effectivement me retrouver facilement à la porte et ne pas réussir à louer un bien qui était rien du tout pour moi, entre guillemets, par rapport à ce que j'étais en mesure de payer. C'est-à-dire que c'était même pas un problème de montant de loyer, d'impayé par rapport à il faut gagner tant de fois le montant du loyer, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça m'a semblé lunaire. Mais pour le coup, c'est là déjà où a commencé une vraie prise de conscience pour moi. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de partager tout ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi, du coup, de venir partager à la suite de ces événements-là. Comme j'ai décidé que cette année, je reprenais mes finances en main. Et comme tu sais aussi que j'ai décidé de mettre dans mes priorités absolues, dans mes objectifs, l'achat immobilier, justement. Eh bien, je trouve que c'est intéressant maintenant que je viens de te partager ces décisions que je prends au quotidien et comment ça évolue, comment j'évolue sur ce sujet. Et en tout cas, toutes les décisions qui finalement impliquent de l'argent, qu'est-ce que ça vient faire bouger chez moi, qu'est-ce que ça vient nourrir comme réflexion. Donc, je vais te parler de ce fameux cas concret que je vis actuellement, à savoir l'achat de mon appartement. Puisque oui, j'ai un projet immobilier. Il faut savoir que j'ai le souhait, moi, d'habiter plutôt en centre-ville. Je suis très urbaine. Hors de question pour moi d'aller habiter à l'extérieur de la ville, de devoir prendre ma voiture quand j'ai envie de bouger, etc. Donc, je suis absolument pas à la recherche d'une maison pour ces raisons-là. Surtout que je souhaite continuer d'habiter seule, enfin avec mon fils. Mais du coup, voilà, il est aussi scolarisé, donc hors de question pour moi de prendre la voiture pour l'amener à l'école ou qu'il prenne le bus très tôt le matin, etc. Donc je veux garder une vie citadine, urbaine, à proximité de tout. Du coup, c'est pour ça que je vais te parler de l'achat de mon appartement, puisque effectivement, il y a très 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 peu de maisons ou alors c'est des maisons de ville qui correspondent pas forcément à ce que je cherche. Donc voilà, le cas concret, c'est l'achat de mon appartement et bien évidemment c'est un achat en tant que résidence principale, je parle pas de investissement locatif, etc. Ce projet immobilier, il m'a révélé une énorme erreur dans ma vision de l'argent que je traîne, je pense, depuis un certain nombre d'années jusqu'à récemment. Donc voilà, c'est ça que j'avais aussi envie de te partager. Alors, je fais un petit disclaimer en préambule parce que on pourrait se dire, non mais elle a 42 ans, elle a jamais acheté, etc. Bon, je sais que vous n'êtes pas des gens qui jugent, mais si j'ai jamais acheté de résidence principale avant mes 42 ans, pourquoi? C'est parce que, d'une part, j'ai fait des investissements immobiliers très jeunes. Donc, je sais ce que c'est de faire de l'investissement locatif. J'ai notamment, à l'époque, investi dans la loi Cellier. J'ai aussi fait de l'investissement dans ce qu'on appelle des SCPI. Donc, en fait, c'est des investissements dans des locaux Dans des locaux commerciaux, des bureaux, des choses comme ça. En fait, c'est des parts qu'on a, voilà, dans différents locaux ou autres. J'ai aussi fait de la bourse. Bref, je gagnais bien ma vie en tant que commerciale à l'époque, puisque j'avais un revenu illimité, du coup, en tant que commerciale. Et puis ensuite, je suis passée cadre. J'étais en CDI. J'ai passé 15 ans dans la même entreprise. J'ai évolué jusqu'au maximum quasiment d'où on pouvait évoluer dans cette entreprise. Donc, j'avais les moyens. Je payais aussi déjà beaucoup d'impôts. Et donc, très tôt, j'ai eu cette culture. J'étais aussi entourée de gens qui avaient en moyenne une dizaine d'années de plus que moi et qui gagnaient aussi plutôt bien leur vie, des professions libérales, des entrepreneurs, etc. Et donc, j'ai été très vite dans cette culture de investir pour défiscaliser. Voilà, placer mon argent, etc. Donc, c'est des choses que je connais, que j'ai fait, qui m'intéressent plus du tout aujourd'hui parce que je n'aime pas du tout, en fait, non plus. J'ai appris que j'aimais pas du tout, voilà, que mon argent soit immobilisé, de devoir respecter, par exemple, des loyers plafonnés, de devoir surveiller les cours des bourses, d'avoir une notion de risque aussi dans mes investissements. Je suis pas joueuse avec mon argent. Voilà, il y a des choses qu'on fait en fait, et puis de suivre aussi tout ça et tout ce que ça entraîne aussi derrière dans la gestion des impôts, etc. Donc, en fait, j'ai fait ça pendant, voilà, on va dire mes premières années, 10-15 premières années de vie active. Et en fait, j'ai compris aussi que c'était pas forcément, voilà, pour moi, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, en tout cas, j'investissais à l'époque pour défiscaliser. Comme mes amis, en fait, on était tous plutôt dans la location de belles maisons, de beaux appartements, etc. Et on préférait, en fait, investir notre argent et profiter de notre taux d'endettement dans l'investissement plutôt que dans une résidence principale. Et donc, on préférait louer à côté, voilà, des appartements ou des maisons qu'on n'aurait pas pu du coup forcément financer à l'époque où il n'y avait pas forcément d'intérêt, mais on pouvait vivre dans ces endroits-là en les louant du coup. Et puis, j'avais aussi le fait que moi, j'étais prédestinée à être régulièrement mutée. Donc, c'était pas opportun pour moi en soi d'acheter une résidence principale à l'époque. Voilà. Alors ensuite, j'aurais pu acheter avant de quitter mon CDI et avant de devenir entrepreneur. Peut-être que si c'était à refaire aujourd'hui, avec l'expérience du coup, peut-être que je procéderais plutôt dans cet ordre-là. Mais à l'époque, j'avais le sentiment de me jeter un peu dans l'inconnu, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que j'aurais pas pu gérer, et me jeter dans l'inconnu, dans l'entrepreneuriat, et en même temps, faire ce qui me semblait une grosse étape à l'époque, hein, ce qui me le semble beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, d'acheter une résidence principale. Je pense que j'étais pas non plus consciente, pardon, quand j'ai quitté mon CDI que le statut d'auto-entrepreneur puis même d'entrepreneur m'handicaperait à ce point dans notre système français. Donc voilà, encore une fois, comme j'en avais pas conscience, quand on sait pas ce qu'on ne sait pas, eh bien du coup, on n'anticipe pas forcément. Et puis aussi, c'est vrai que j'étais dans une situation personnelle différente qui ne mettait pas forcément d'urgence sur ce point de acheter mon hébergement principal. Avec le recul, c'était probablement aussi une erreur de pas se dissocier dans le couple et faire peut-être voilà, ce genre de choix. Mais pour toutes ces raisons, ça fait que je ne suis pas encore propriétaire de ma résidence principale à mon âge, donc à 42 ans. Mais encore une fois, l'idée ici, c'est de dépasser voilà, ces schémas peut-être un petit peu classiques. Aussi de pas rentrer dans des réflexions du style, bah oui, on sait très bien que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux d'acheter plutôt que de louer et de jeter son argent par les fenêtres en payant un loyer. On sait très bien que voilà, quand on a de l'argent, les gens qui deviennent riches, c'est bien parce qu'ils investissent et puis ça fait des petits et puis c'est comme ça qu'on s'enrichit de plus en plus, etc. Oui, certes, on le sait, mais on n'a pas forcément tous envie de ça. On n'est pas forcément tous préparés à ça non plus. Et donc l'idée, voilà, c'est pas de rentrer dans ces situations-là et dans ces clichés-là, entre guillemets. Voilà, c'est plus de partager d'autres choses, d'autres déclics que j'ai eus avec cette démarche d'acheter du coup mon appartement en résidence principale. Et donc le premier déclic que j'ai eu, eh ben c'est tout simplement l'illusion de la sécurité financière dans laquelle je vivais. Pendant des années, j'ai cru que la sécurité financière, du coup, c'était d'accumuler toujours plus d'argent sur mon compte. Vous voyez, c'est un peu l'image de mettre des billets sous le matelas. Plus j'en ai, plus c'est bon signe, mieux c'est. Hein. Donc, avec ce truc aussi de il n'y en a jamais assez, ou en tout cas, c'est bien s'il y en a toujours plus, plutôt. Voilà. Et en fait, dans ma tête, j'avais ce truc de tant que j'ai de l'argent, je suis protégée. En fait, tant que j'ai de l'argent, bah, ça veut dire que je n'ai pas à compter, je peux dépenser sans compter ou en tout cas sans me priver. Ça veut dire que voilà, tout est possible entre guillemets. Je peux avoir la vie que je veux, mais dans le sens un peu la vie de dépense ostentatoire, m'acheter ce que je veux sans regarder, etc. Ce qui est bien, hein, attention, je remets pas ça en question. Mais ce que je remets en question, c'est que cette stratégie ne marchait pas sur quel aspect ? Eh bien, tout simplement sur l'aspect de la sécurité financière, de la sécurité qu'on veut ressentir avec ses finances. C'est-à-dire que l'argent en lui-même, en fait, n'est pas un remède à l'insécurité. Il est juste un amplificateur. Mais en fait, pourquoi je dis cette stratégie ne marchait pas ? Parce que effectivement, à aucun moment, je me suis sentie avec cette stratégie d'accumuler de l'argent sur mon compte en banque en réelle, finalement, sécurité financière, ou plutôt, je me suis jamais sentie départie, je sais pas comment, de mon insécurité, quoi. Elle était toujours quand même présente. Alors, pas, c'est pas comme, voilà, quand on est vraiment, on sait pas comment on va faire pour payer le mois d'après. Là, c'est omniprésent, c'est un autre sujet. Là, ce dont je parle, moi, c'est qu'évidemment, j'y pensais pas tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui était là en toile de fond. Comme voilà, je sentais que j'avais un travail encore à faire sur l'argent et sur cette notion d'insécurité. Et puis, donc, j'ai entamé les démarches pour l'achat d'un appartement, à savoir donc d'une part voir un courtier, ce qui m'a déjà débloqué sur beaucoup de choses, mais j'ai pas envie de rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui parce que c'est un peu plus technique du coup et il n'y aurait pas de valeur réellement ajoutée pour l'épisode. Et de deux, j'ai commencé aussi à faire des visites d'appartements. Donc moi, j'ai besoin de goûter hein, à ma décision, donc en commençant les visites, en mettant le pied à l'étrier, en étant dans l'action. Voilà, c'est comme ça aussi que j'avance et ça, j'en ai besoin. Et en fait, l'autre jour, j'ai visité un appartement pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Peut-être que ça sera mon futur appartement. Je ne veux pas faire de pronostic ou me porter l'œil ici. Et puis, dans la même journée, en fait, j'ai lu cette phrase de James Clear. Si tu connais pas James Clear, je t'invite à lire ses ouvrages. Il parle beaucoup d'organisation, de productivité, etc. Je le cite souvent. Et cette phrase disait « Au lieu de fuir certaines parties de votre vie et de compenser ailleurs, que se passerait-il si vous commenciez à restaurer ce qui est brisé ?» Et en fait, c'est cette deuxième partie de phrase qui m'a marquée « Si vous commenciez à restaurer ce qui est brisé. » Et au moment, en fait, enfin, cette phrase, ce bout de phrase m'a vraiment frappée parce que en lisant ça, j'ai réalisé qu'en ce moment, ces jours-ci, j'étais justement dans un sentiment, de paix profonde. Plus j'avançais dans mon projet immobilier, plus je ressentais de la sécurité en moi. Et en fait, plus j'avais ce sentiment que ce qui était brisé chez moi, autrement dit mon insécurité financière, c'est comme si petit à petit, effectivement, j'étais en train, en procédant à cet achat-là, de restaurer du coup de la sécurité financière en moi. Alors, ça peut paraître complètement paradoxal parce que d'une, je m'apprête à investir une assez grosse somme d'argent parce que oui, en plus, j'ai pris confiance en ma situation et finalement, grâce à mon courtier, eh bien, il a bien inversé la tendance et la vision que je peux avoir de l'investissement que je peux faire, etc. Donc, je m'apprête à investir une assez grosse somme, sachant que j'investis seule. avec un crédit engageant, parce que là aussi j'ai changé d'avis grâce à mon courtier et à l'assurance emprunteur, mais encore une fois ça serait un autre sujet. Et en plus, à m'amputer finalement d'une certaine partie de mon épargne et de mon assurance vie par rapport à la manière dont j'ai défini le projet. Et pourtant, à la lecture de cette phrase, alors que voilà, je m'apprête à faire le grand saut entre guillemets et à porter ça sur mes épaules quelque part, je me suis dit que je sens que cet achat immobilier est justement exactement en train de restaurer ce qui était brisé en moi. Je me sens apaisée comme j'avais pas été depuis longtemps sur ce sujet de l'insécurité financière ou inversement du coup de se sentir en sécurité financièrement. Donc le paradoxe, c'est que j'ai de l'argent, je sais faire de l'argent, c'est-à-dire que même si je recommence n'importe quoi de zéro demain ou que je dois retrouver un job, etc., je sais faire de l'argent, je sais que je peux prétendre à gagner un certain salaire, etc. Je ne manque pas d'argent. Et pourtant, en boucle, en fait, alors en boucle, encore une fois, c'était en toile de fond, mais je cherchais toujours à... alors, quand je dis en avoir plus, c'est pas ça. C'est que... parce que je suis déjà dans une démarche, comme tu le sais probablement, je suis pas... l'entrepreneur qui veut aller faire des millions d'euros, qui veut construire voilà une grosse boîte multimillionnaire, etc. Mais par contre, voilà, ce truc de... j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais cherché la sécurité dans l'accumulation d'argent. Et donc, j'ai de l'argent, je sais faire de l'argent, je manque pas d'argent. Et pourtant, en boucle, j'ai toujours ce truc de... et si un jour j'en avais plus en fait, et si un jour j'en avais pas assez, et si je venais à manquer, ok ? Donc j'ai accumulé et j'ai cherché la sécurité dans l'accumulation d'argent. Et finalement, ça me rassurait pas. En réalité, j'arrivais pas à être rassurée pour autant. Tu vois, d'après ce que je te dis, on voit bien que ça ne réussissait pas forcément à m'apaiser. Donc certes, j'en faisais pas des insomnies, mais voilà, quand je pensais à la suite, aux années à venir, au temps qui me reste à travailler, au fait que j'ai quand même un enfant, etc. Je me disais, voilà, c'est quoi la suite et est-ce qu'il faudra toujours être dans ce truc de j'accumule. Donc en fait, j'accumulais de l'argent au cas où. Ou pour pouvoir faire ce que je voulais sans compter, pensant que ça m'apportait de la sérénité, sauf qu'en vrai, ça m'empêchait pas, tu vois, d'avoir ces moments un petit peu de stress, de doute, de peur, etc. Pareil aussi, évidemment que je faisais de l'argent avec mon business, donc je manquais pas d'argent et je j'avais pas peur de manquer d'argent à cause d'un manque de compétences. Quand on sait vendre, quand on connaît le marketing, quand on a des spécificités métiers, une expertise, etc. Il n'y a pas de raison avec ces ressources intérieures là qu'on ne sache pas faire de l'argent ou qu'on ne puisse pas regagner de l'argent. Mais on peut pas quand même s'empêcher de penser, et si ça marchait plus, et si j'en faisais plus autant, etc. Donc indirectement, on est quand même dans la spirale du... Il y a quand même un peu une spirale du toujours plus, hein, même si c'est pas le fait d'aller gagner des millions, mais de pas vouloir manquer en tout cas, et de toujours se dire, je vais faire de l'argent au cas où, d'accord ? Et donc voilà, j'ai vraiment compris à ce moment-là et quand j'ai lu cette phrase-là que c'est pas en entassant de l'argent, pardon, finalement qu'on se sécurise. Parce que en réalité, si t'es insécure sur ce sujet et que t'as de l'argent, tu resteras insécure, mais avec un compte en banque plein, en fait. C'est tout, c'est la seule différence. Donc j'ai compris que ma relation à l'argent, elle était biaisée et qu'en fait je l'utilisais pas pour me sécuriser, mais je l'utilisais pour essayer de contrôler mon insécurité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que tu as l'impression que c'est subtil, mais en réalité, au quotidien, ça ne l'est pas. Et donc là, en fait, j'ai compris à ce moment-là, j'ai capté pourquoi je m'étais jamais sentie autant en paix. C'est justement parce que j'étais plus en train d'accumuler, mais j'étais en train finalement de structurer les choses. J'étais pas en train de compenser un doute, une peur, etc. Mais j'étais en train, au contraire, de restaurer Comme vraiment l'expression de James Clear est très juste, j'étais vraiment en train de restaurer quelque chose en moi. Donc là où avant je stockais l'argent sans but, eh bien maintenant je l'utilise pour ancrer quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et ce qui a de la valeur pour moi, et je vais revenir sur cet aspect-là parce que c'est aussi fondamental, je pense, dans ce mindset de l'argent, ce qui a de la valeur pour moi, c'est là où je vis, c'est mon cocon, c'est mon environnement, c'est vraiment mon lieu de vie. C'est extrêmement important pour moi. En plus, je passe énormément de temps chez moi, en tant qu'introvertie déjà. J'aime passer du temps avec moi-même. Et puis, on a des business qui peuvent nous permettre aussi de travailler de chez nous, etc. Et en fait, ce qui a énormément de valeur pour moi, c'est ce cocon, c'est ce toit au-dessus de ma tête. Et c'est une stabilité, finalement, aussi, dont j'ai besoin aujourd'hui à cette période de ma vie, qui était peut-être pas aussi importante, présente, pour moi, il y a quelques années en arrière. Mais voilà, j'ai compris que j'étais en train d'utiliser mon argent pour ancrer quelque chose qui a de la valeur pour moi, en l'occurrence ce cocon de vie, et qui m'apporte cette stabilité réelle dont j'ai besoin à cette période de ma vie. Et là, du coup, j'ai compris aussi un truc essentiel sur l'argent et sur ma manière de le gérer, c'est que en soi, c'est pas l'argent qui est important pour moi aujourd'hui, mais par contre, c'est ce qui me permet de faire. Si c'est l'argent en lui-même qui était ma priorité, ma vie démontrerait que je le valorise, comme par exemple dans des achats de luxe pour montrer de l'ostentatoire, de l'accumulation de choses, de matériel, peut-être de la technique dernier cri, peut-être voilà aussi un modèle de voiture pour dire j'ai les moyens de me payer ça, pour montrer aux autres en fait. Mais moi, ce que je valorise vraiment dans ma vie aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui, à la limite, n'est pas obligé de se voir, mais c'est le cocon dans lequel je vis, c'est ma safe place, parce que je valorise aussi beaucoup plus aujourd'hui mon équilibre, mon apaisement intérieur, mon indépendance aussi, quelque part, indirectement, d'avoir mon lieu de vie à moi. Donc, l'enseignement que j'ai fait de tout ça, c'est que l'argent n'a de valeur que si tu lui donnes une mission. Et là encore où je stockais sans but avant, eh bien maintenant j'investis pour construire quelque chose de tangible. Alors quand je dis construire, c'est pas construire l'appartement, hein, t'as compris, mais construire dans ma vie en fait quelque chose de tangible, quelque chose qui est aligné avec ma vie et avec mes besoins réels. Donc mon argent avant, finalement, il avait pas de vraie mission claire. Et je crois que c'est ça, la vraie sécurité financière, c'est savoir pourquoi tu veux de l'argent et lui donner une mission qui va au-delà du simple fait d'en avoir. Je répète, parce que je pense que c'est important, la vraie sécurité financière, c'est savoir pourquoi tu veux de l'argent et lui donner une mission qui va au-delà du simple fait d'en avoir. Donc voilà ce que cet achat m'apprend, que l'argent n'a de valeur que si tu lui donnes une mission. Probablement aussi que indirectement, ça me permet de... Alors moi j'ai toujours fait ça, je suis jamais partie dans le business ou dans n'importe quoi sans me dire « Ok, combien je veux gagner? J'ai besoin de combien par rapport à mes besoins réels ?» Et donc quel est le moyen qui va me rapprocher le plus vite de ça et de manière la plus minimaliste, parce que ça c'est dans mes valeurs, c'est dans ma philosophie de vie, etc. Et en business, même mes clientes, la première chose sur laquelle je travaille, c'est cette équation de quel chiffre d'affaires tu veux atteindre, et ensuite et tu le sais si tu travailles avec moi, selon la vie que tu veux, quel business model tu vas choisir pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, etc. Donc, je suis pas... tout ça, c'est pas des réflexions, tu vois, qui me sont inconnues. Au contraire, je dirais que même mes formations, mes accompagnements sont même basés là-dessus. Mais n'empêche que c'est quand même un rappel que je souhaite faire ici. C'est que finalement, quand notre argent, il a une mission, C'est beaucoup plus facile derrière aussi de définir notre AC, hein, donc A2SEZ, c'est-à-dire c'est quoi ton AC en termes d'argent. Et ça, ça va probablement changer. Alors, encore une fois, moi, c'était pas trop une problématique, mais je te le partage quand même parce que ça peut être utile dans cette réflexion. De définir ton AC, ça change tout parce que beaucoup de personnes, je le vois en accompagnement, je le vois dans les personnes que je coach et puis les entrepreneurs en général veulent toujours plus. Mais quand tu sais combien il te faut pour ta définition du bonheur, eh bien là, ça change tout parce que t'es plus dans une course infinie, t'es plus dans le stress de devoir te réinventer en permanence, t'es plus dans le stress de, voilà, dans des, finalement, des inquiétudes illégitimes, puisque peut-être même qu'aujourd'hui, déjà, ce que tu fais, c'est suffisant, en fait. Et puis, dernière réflexion par rapport à ce que cet achat m'a appris aussi, et après, une autre partie que je veux te partager, c'est que c'est pas l'accumulation, finalement, qui protège, mais c'est la gestion. Donc, je suis passée un petit peu d'une logique de stockage passif, on va dire, à une stratégie d'optimisation, mais là encore, je parle pas, ok, d'optimisation fiscale, etc. Je parle juste de donner une structure et donc une fameuse mission à mon argent. Et effectivement, c'est pas tout. J'aimerais dans cette dernière partie amener une autre réflexion autour de ce qui nous fait nous sentir riches. Et un petit peu dans cette idée de là, c'est plus pour t'aider toi aussi si tu cours après de l'argent, mais sans savoir après combien tu cours et sans savoir justement quelle est la mission que tu veux donner à cet argent. Et en fait, mon propos ici, c'est que si tu reconnais pas ta propre forme de richesse, est-ce que tu serais pas prêt à échanger contre de l'argent, entre guillemets, je vais développer ma pensée, eh bien, il y a des chances que tu passes ta vie à courir après la forme de richesse des autres, après ce que veut, tu vois, après ce que les autres veulent bien montrer comme signe extérieur de richesse entre guillemets, et alors du coup ça veut dire passer ta vie à courir après quelque chose qui t'appartient pas, parce que tu as passé ta vie à croire que la richesse c'est avoir plus, mais en fait la vraie richesse justement c'est de ne pas échanger ce qui a le plus de valeur pour toi contre de l'argent. Donc j'ai moi-même fait ce travail de réfléchir à ce que je n'échangerais pas contre de l'argent, mais dans le sens contre du toujours plus d'argent. Et justement, typiquement, mon cocon intérieur, un cadre de vie qui me fait sentir bien, ça c'est l'essentiel pour moi. Et tu pourrais me donner des millions d'euros si c'est pour vivre dans un environnement où je me sens pas bien, dans un chez moi où je me sens pas bien, enfin voilà, eh bien je vais pas y aller en fait, parce que le fait de me sentir bien chez moi c'est beaucoup plus important que de me montrer dans une Lamborghini à Dubaï par exemple, je dis, hein, je donne un exemple comme ça complètement random sur l'entrepreneuriat bling bling. Mais voilà, ça me fera pas rêver parce que je sais que moi, ma propre richesse et ce qui me rend riche, c'est l'endroit, voilà, d'avoir mon chez moi, mon cocon intérieur, mon cadre de vie qui me fait sentir bien. Continuer d'expérimenter et de transmettre. Pouvoir faire ça au quotidien, expérimenter et transmettre sur les sujets qui m'inspirent. Ça, c'est ma définition aussi de ma propre richesse, de ce qui me rend riche. Donc, si on me proposait n'importe quel job ou de gagner X millions d'euros, mais qu'on m'enlevait ça ou ça ne me permettait pas en fait de continuer d'expérimenter, de transmettre au quotidien sur les sujets qui m'inspirent, alors je voudrais pas non plus de cette richesse-là. Mon indépendance, bien sûr, qui n'a pas de prix, et le temps que j'investis pour ma santé et je dirais même au sens large pour ma vitalité. Si tu me suis, voilà, tu sais que du matin au réveil à ce que je vais me boire comme boisson chaude, à ce que je mange, au sport que je fais, aux pratiques que j'ai dans la journée, à la manière que j'ai de réguler mon système nerveux, etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle et ce que je mets sous la coupe de ma vitalité. Et le temps que j'investis pour ça, en fait, tout comme le temps du coup que je passe chez moi et avec moi-même, justement dans... au service de ma vitalité, de mon bien-être, de ma santé physique et mentale, eh bien ça, pareil, je pourrais gagner plus d'argent, mais ça voudrait dire avoir ces moments-là soit plus rares, soit plus moins importants dans ma journée, avoir moins d'heures à leur consacrer, parce que moi ça se compte en heures hein, sur une journée. Et ben ça je veux pas non plus en fait. Je serais pas voilà, ça fait pas partie de ma définition de la richesse pour moi. Et je pense que là aussi, c'est là que la c'est en ça dans ta définition à toi de ce qui de ta propre richesse en fait, je pense que c'est la vraie sécurité qui se crée ici aussi quand tu reconnais ce qui est vraiment précieux pour toi en fait. Donc comme on parle d'insécurité financière, c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là aussi parce que je pense qu'effectivement ça vient créer une vraie sécurité de reconnaître ce qui est vraiment précieux pour toi. Et donc, le problème, c'est que tant que tu vas pas aller réaliser ta propre forme de richesse à toi, tant que tu vas pas lister, en fait, ce qui reflète ta propre forme de richesse à toi, eh bien, tu vas passer ta vie à courir après celle des autres. Donc après, la propre forme de richesse des autres. Tu vas vouloir gagner plus parce que tu penses que ça va te rassurer, tu vas prendre des décisions par ego. Parce que tu vas te comparer à ceux qui semblent, selon toi, avoir réussi. Tu vas finir finalement dans ce fameux piège du mindset pauvre, de celui qui cherche à prouver voilà, son statut, son étiquette, qu'il a de l'argent, etc., au lieu d'utiliser finalement l'argent comme un levier au service de ta vie. Donc, tant que tu mets pas les mots sur ton unique forme de richesse, tu risques inconsciemment de toujours te considérer comme pauvre finalement et de te sentir nul. C'est exactement là où t'es en PLS quand t'ouvres les réseaux sociaux, que tu regardes Instagram et t'as l'impression que tout le monde a une vie plus riche que toi. Tu te compares, t'essayes d'imiter, tu copies, etc. Et c'est absolument pas là que tu rentres dans cette forme de sécurité financière justement. Donc, si tu veux que ça change pour toi aussi, je te propose voilà, des petits exercices que tu peux faire si tout ce que je t'ai raconté, ça résonne pour toi. Je pense que déjà, reconnaître ta richesse réelle, c'est le premier pas. Donc, faire la liste de tout ce que tu ne vendrais pas ou que tu échangerais pas ou de ce qui, en tout cas, est ta propre forme de richesse. Est-ce que c'est ton indépendance, ton équilibre de vie, ta créativité, ton temps libre? Peu importe, mais en tout cas, de faire cette liste de c'est quoi ta richesse à toi. Bon, moi, je pense que c'est bien d'avoir 4-5 éléments à minima dans cette liste. Et ensuite, justement, hein, c'est ce qui nous permet de, à la suite de ça, de venir donner une mission à notre argent une fois que on sait ce qu'est notre propre forme de richesse unique. Dans un deuxième temps, ça peut être intéressant pour toi d'aller identifier si ton argent finance ce qui compte vraiment pour toi. Donc ça peut être par exemple en regardant tes dépenses et en te demandant est-ce que ces dépenses-là financent ce qui est important pour moi ? Ou est-ce que ces dépenses-là sont des dépenses pour prouver quelque chose aux autres, mais finalement, je ne mets pas mon argent là où il sert ma vraie richesse. Et donc, encore une fois, il te sécurisera jamais ton argent si tu le mets pas justement au bon endroit, s'il finance pas ce qui compte vraiment pour toi. Donc voilà, en regardant ton argent, est-ce que ton argent ou comment il est réparti pour te sécuriser, comme moi, est-ce que finalement tout dort sur ton compte ou est-ce qu'il est en train de financer tes besoins réels ? Donc tu vois, moi c'est le shift que j'ai fait. Donc là, pareil, hein, tu peux regarder où va ton argent ce mois-ci et te poser la question de est-ce que ça me rapproche finalement de ma vie idéale. Et enfin, et on en a parlé, hein, mais la troisième action, c'est de donner une mission claire à ton argent. Alors tu peux voilà, t'écrire ça sous forme de mantra comme « mon argent sert à tel objectif », donc ton objectif précis à toi pour que je sois réellement en sécurité. Ou tout simplement voilà, réfléchir à ce sujet, en tout cas de quelle est la mission claire que je veux donner à mon argent. Et encore une fois, si ton argent ne travaille pas pour créer ta vision de vie, le risque, c'est qu'il ne va faire que nourrir tes peurs. Et puis, oui, j'ai déjà parlé dans cette mission claire qu'on donne à son argent. C'est aussi là où on va faire l'exercice de définir son assez Et parce que si tu sais combien il te faut pour être bien, tu n'auras pas besoin d'être toujours en train de courir après plus du coup. Donc moi, je t'invite aussi là en termes d'action peut-être, si tu n'as jamais fait cet exercice en tout cas, à venir poser ce chiffre-là, c'est combien ton assez et est-ce que tu l'atteins déjà finalement ou est-ce qu'il est en réalité un peu sous-jacent déjà? Ou si c'est pas le cas, vois comment tu peux l'atteindre le plus simplement et le plus rapidement, et peut-être en éliminant justement des dépenses que tu fais qui sont pas dans le financement de choses importantes pour toi, mais plus dans des dépenses pour prouver des choses peut-être, ou pour ce que tu crois que c'est d'être riche ou d'avoir de l'argent, mais finalement qui n'est pas ta propre définition à toi de la richesse. Tout ce travail-là de définir son assez, etc., évidemment, moi, je peux aussi t'aider là-dessus dans les immersions individuelles, quand j'accompagne du coup sur simplifier le business, l'optimiser, puisque moi, je suis dans une démarche de générer du chiffre d'affaires ou continuer à faire de la croissance et en même temps de préserver son bien-être, d'avoir du temps pour soi, de respecter un rythme qui te correspond, etc. Et forcément, dans cette logique-là, on vient toujours définir et poser, on vient toujours travailler un petit peu sur l'argent. Parce que souvent, il manque ce point de départ de combien je veux générer de chiffre d'affaires. Pourquoi ce chiffre d'affaires-là? Pour nourrir quoi? Pour mettre quelle mission à cet argent derrière? Et quand est-ce que je vais me dire, j'ai réussi, c'est assez, je suis bien, je suis heureuse, etc. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait très régulièrement avec les entrepreneurs que j'accompagne en immersion. C'était pas le sujet principal aujourd'hui. En tout cas, ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, ce que je t'ai partagé moi aujourd'hui, c'est que j'avais de l'argent, j'ai de l'argent, mais je me sentais pas plus en sécurité. Et donc, c'est peut-être d'arrêter de croire que l'argent en lui-même, l'argent seul, va te rassurer. La preuve, c'est que aujourd'hui, moi, je me sens plus libre avec un prêt immobilier sur le dos. Bon, je l'ai pas encore contracté, mais à l'aune de ce prêt immobilier et une gestion claire, finalement, plutôt qu'avec un compte en banque bien rempli, mais sans vision. Donc, je me sens en sécurité parce que mon argent a une mission. Je me sens en sécurité parce que je sais qu'il va travailler pour moi au lieu d'être juste comme une somme qui dort sur mon compte. Et je me sens en sécurité parce que je suis alignée avec la richesse que je veux construire, donc avec ma propre définition de la richesse, et pas celle qu'on m'a vendue comme étant la bonne. Pas celle qui vient de l'extérieur, pas celle qui vient d'Instagram, pas celle qui vient des réseaux sociaux, pas celle qui vient des entrepreneurs du monde du hustle et du toujours plus et de faire des millions d'euros, etc. Et selon moi, c'est ça la vraie richesse. Et pour conclure, je dirais que l'argent doit vraiment rester à sa place, c'est-à-dire que c'est un outil. Il est fluctuant et en aucun cas, c'est une identité. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais bien compris depuis longtemps et que je ne suis plus non plus cette personne qui a besoin de signes extérieurs pour exister ou se sentir riche, en fait. C'est plus la version de moi. J'étais peut-être cette version, mais je suis plus cette personne riche là aujourd'hui. Et donc je voulais te partager un petit peu tout ce qui s'est joué finalement et tout ce qui peut se jouer autour d'une simple démarche d'acheter un appartement. Écoute, si cet épisode t'a fait un déclic, si t'as aimé, si ça t'a inspiré, si ça a réveillé des choses en toi, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Tu peux me retrouver sur mon compte @CécileFuselier avec deux L. Tu peux aussi partager l'épisode en story. Écoute, je serais ravie en tout cas de savoir ce que cet épisode a pu t'inspirer autour de l'insécurité financière ou de la sécurité financière comme on veut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.